succès entre les poteaux. Christophe Cessieux.
Salut à tous. Plus que des succès, c'est un de véritables triomphes auxquels nous avons eu droit ce week-end lors des finales de Coupe d'Europe et d'Afrique du Sud aussi, faut pas les oublier. Montpellier et l'UBB qui ont littéralement roulé sur leurs adversaires irlandais pour réaliser un doublé Challenge Cup, Champions Cup, le sixième de l'histoire pour des clubs français dans ces compétitions. N'en jetez plus, les coupes sont pleines. Et aujourd'hui, entre les poteaux, on va évidemment revenir sur ces matchs, mais aussi se demander si cette domination française est appelée à durer et si elle est vraiment profitable au rugby européen. Montpellier et l'UBB qui, tout au long de cette saison européenne et plus particulièrement durant leur finale, ont montré tout leur talent et ils sont nombreux. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne font encore figure de favori pour le titre de champion de France qui sera décerné dans un petit mois. Ces succès vont-ils sublimer Montpellier et l'UBB qui sont dans des situations différentes? On le verra. Qui des deux vous semble plus à même d'atteindre la finale le 27 juin prochain et peuvent-ils vraiment mettre à mal la domination toulousaine? Là aussi, on en débat dans un instant avec toute l'équipe des poteaux composée aujourd'hui de Denis Charvet, de retour d'une tournée triomphale au Pays Basque espagnol. Bonjour mon cher Denis.
Salut Christophe.
Accompagné de deux autres triomphateurs, évidemment, le Montpelliérain Julien Landry et le Bordelais Nicolas Paolorsi. On a viré le Toulousain Rochelet et Wilfried Templier aujourd'hui. Hein. Il n'a rien gagné, donc on a pris que les gagnants.
Plus.
Il gagne plus,
ouais,
c'est
il
fini.
Plus.
Ça va les copains?
Salut
ça
les
va.
Amis. Ouais,
bien
ça
remis
va, bien.
De ce beau week-end basque.
Oui, c'est toujours intense, mais c'est très sympa. Hein.
On a très sympa. Sage.
Vous avez été très sage.
J'ai entendu quelques problèmes à l'antenne hier après-midi. J'ai des problèmes de clim un petit peu.
J'ai entendu quelques chats dans la gorge, mais c'est la clim de Bilbao.
Alors que nous, avec Nico.
Il y a eu des pépites pour le Moscato Show.
Non, c'est bien passé. Ouais. Avec Wilfried, on avait des petits problèmes de voix, mais on était très bien.
Les clims à l'hôtel étaient difficiles.
Mais Julien et Nico se sont reposés une journée
Nico,
de plus.
Ils ont récupéré.
Et ils sont évidemment frais comme des gardons le lundi. Mais le dimanche, ils ont fait de coucou Spanier les pattes en rond. Ah oui, c'est vrai. Fallait rentrer quand même.
Ah oui, c'est bon.
Fallait rentrer à Montpellier. La fête a été très belle tout au long de ce week-end où les rues de Bilbao ont donc été envahies par des hordes pacifiques de supporters irlandais et français. Mais à la fin du bal, comme souvent dans ces compétitions européennes, les sourires étaient surtout sur les visages montpelliérains et bordelais après les prestations majuscules réalisées par leurs équipes.
C'est Alexandre Béconnier qui va marquer cet essai et qui va permettre aux montpelliérains de s'envoler juste avant la mi-temps, 28-12.
Les Irlandais, Jean-Louis, quittent le stade, prennent la direction des bars de Bilbao. Ils vont faire une deuxième soirée. 52-19 pour les Montpelliérains. L'addition commence à être très très salée.
Et c'est terminé à l'instant. Ce ballon il sort. Et voilà, les Montpelliérains remportent pour la troisième fois le challenge européen. Victoire du MHR 59-26. Un premier titre cette saison avant peut-être de rêver plus grand.
Allez messieurs, l'objectif c'est rentrer dans la légende. Rejoindre Leinster, les Saracens, le Leinster, Brive et la Rochelle. Et garder la coupe à la maison, messieurs les Bordelais, c'est parti! Et c'est Tommy O'Brien, le Leinster récompensé sur ce temps fort. 9e minute de jeu, premier essai les Irlandais.
Ouais, c'est inquiétant, c'est inquiétant.
Lucu, essai de Lucu!
Et oui!
Fana dans le dos, pour Jalibert, c'est bien ça, Rayassi, il va déchaîner l'extérieur.
Oui.
Incroyable. Et voilà comment se faire punir quand on respecte pas le jeu côté Leinster. Et c'est fait! Victoire de l'UBB 41-19 après les Anglais de Leinster et du Saracens, après le Leinster, après Toulon et la Rochelle. L'UBB rentre dans la légende et conserve sa Coupe d'Europe. L'UBB reste tout en haut.
Tu peux nous le refaire là, Denis? Le oui.
J'avais pas le micro. Ça va, parce que la voix après, elle en prend un coup.
Mais non, elle va bien la voix. Une boucherie, deux véritables boucheries. Jamais dans l'histoire de ces compétitions, le suspense n'avait été tué aussitôt dans les matchs et les écarts à la fin aussi conséquents. 59-26 pour le MHR contre l'Ulster, 41-19 pour l'UBB, qui a même quasiment arrêté de jouer à l'issue de la première mi-temps, une première mi-temps de feu. Les supporters se sont régalés, les joueurs joueurs ont fait la fête. Mais est-ce que c'est pas un peu inquiétant, avant évidemment de revenir sur toute la magnificence du jeu de Montpellier et de l'UBB, c'est pas un peu inquiétant de dominer le rugby européen de la sorte? Parce que franchement,
six victoires d'affilée,
quoi. C'est
inquiétant, oui et non, dans la mesure où on a aujourd'hui des générations de joueurs français, je parle, exceptionnels. On a peut-être la meilleure génération de tous les temps. Donc, ce qui fait que dans les clubs comme l'UBB, tu vois des pépites comme Mathieu Jalibert, Biel Biarré, des grands joueurs quoi, qu'on n'avait peut-être pas par le passé, on n'avait pas autant. Tu regardes à La Rochelle, tu regardes ou ailleurs ou à Toulouse, évidemment à Toulouse, on va pas les citer, mais je crois qu'il y a quand même ce phénomène de génération, générationnel, je le pense.
Oui, mais alors la génération, Julien, Nico, elle est exceptionnelle. La France a remporté le tournoi, mais elle est moins dominatrice dans les tournois par équipe nationale que dans les tournois par équipe de club. Elle a gagné, mais elle a quand même pris une rouste en Écosse. Voilà, l'Irlande termine deuxième, là en laissant quand même très loin des équipes françaises. Comment vous expliquez cette différence finalement, messieurs ?
Non, mais déjà, je pense qu'il y a aussi une donnée qu'on oublie, c'est que les étrangers qui jouent en France ne jurent que par la Coupe d'Europe. D'ailleurs, ouais. Laurent Marty le disait après match, oui. Il disait faudrait que nos étrangers se rendent compte aussi que le Brennus, pour nous, il est plus important. Donc, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que...
C'est dans la culture des étrangers, la Coupe des Champions, alors que le Brennus est dans la...
Léo Cullen disait que après match, en disant les clubs français arrive à toucher des joueurs, des top joueurs mondiaux que peut-être les clubs irlandais, de par leur politique, n'arrivent pas à faire. Donc tu te retrouves avec un Rayassi aujourd'hui, un Saadi côté bordelais, dont on parle peut-être Coleman. Un peu moins, un Coleman, ces joueurs-là dont on parle un peu moins, qui eux ne jurent que par la Coupe d'Europe. Donc Denis a raison. Une génération française exceptionnelle, portée par là, Jalibert, Lucu, Biel Biarré, Penaud, plus les meilleurs étrangers qui ne jurent que par la Coupe d'Europe et qui donc se transcendent, et c'est pareil pour les Montpellierains, Vunipola, Banks, et qui se transcendent sur ces moments européens. Et puis après, je pense que le championnat français, Léo Cullen en parlait aussi, il disait qu'il était impressionné par la vitesse et la puissance. Je pense qu'il y a un multiple facteur. Mais... Et pendant longtemps, je pense que la Coupe d'Europe était plus difficile à gagner pour les clubs français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de gagner un Brennus qu'une Coupe d'Europe pour les clubs français. Et qu'aujourd'hui, les clubs français sont largement au-dessus des provinces anglaises, irlandaises, sud-africaines, de par la dureté de notre championnat.
Mais je te laisse parler à Nico après. Tu peux rajouter Mathieu.
Oui,
Gazzotti, Walkin,
c'est
des jeunes qui jouent en équipe de France, qui ont un talent fou.
Oui, mais là, t'avais 80% de l'équipe d'Irlande de Nîmes.
Plus une légende des All Blacks qui, lui, n'a pas l'air.
Bien sûr.
On va en parler tout à l'heure, mais c'est pas la vraie équipe du Leinster, je suis désolé.
C'est pas la vraie équipe du Leinster.
Non, c'est une autre équipe.
Non, mais c'est une équipe qui est peut-être
en fin de cycle, il me semble. Oui, bien sûr.
En fin de cycle, d'accord. Mais enfin, c'est quand même 80% de l'équipe d'Irlande qui a terminé deuxième du tournoi. Bon, qu'on a bien dominé en début de tournoi, Nico, mais quand même, ça a plus rien à voir avec ces guerriers irlandais qui faisaient régner la terreur sur les terrains, même si ça fait 5 fois qu'ils perdent en finale quand même.
Ah bah c'est sûr que la finale de samedi dernier, elle sonne la fin d'une génération au Leinster. Je pense que voilà, là, ça symbolise la fin de cycle. Ils ont été dominés dans tous les secteurs. On reviendra plus tard sur cette finale dans le détail. Mais je pense que Julien, il a tout dit. Il y a des étrangers en France qui aiment jouer la Coupe d'Europe et qui sont d'un niveau quand même assez incroyable. On a en plus une génération de joueurs français de folie. Des clubs comme Toulouse, l'UBB, le Stade Rochelais sont super investis dans la formation et dans la post-formation des jeunes. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aller chercher sur le marché des transferts les meilleurs jeunes joueurs français de 17, 18 ans, moins de 20 ans pour les développer et qu'ils jouent rapidement en pro. Donc voilà.
Ouais, mais les développer, Nico, c'est une chose. Qu'ils aient autant de talent, c'en est une autre. C'est ça qui me bluffe, parce que de toutes les générations.
Bien recruter.
Mais t'as des jeunes qui arrivent souvent t'as des jeunes qui arrivent qui ne franchissent pas le pas. C'est pas une évidence même. C'est-à-dire la formation, c'est une chose. Mais après, pour que les joueurs, ils éclatent, ils s'éclatent au grand jour, c'est moins
bien
évident.
Sûr. Donc, ce que je veux dire,
quand
Denis,
même
c'est que
ce talent Toulouse, qui est là, Toulouse, quoi. C'est
bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais Toulouse et l'UBB, après, sont très attractifs sur le marché.
Oui, bien sûr.
Quand t'as un jeune joueur de 17 ans, ans, maintenant, bah, tu vas facilement jouer à Toulouse ou à Lille. C'était le cas de Gazzotti, c'était le cas de Bielbiaré, qui sont pas des joueurs formés à Bordeaux, mais qui sont arrivés à 17 ans et qui se sont développés après, derrière, avec les espoirs avant d'accéder au monde.
Mais moi, ce qui me bluffe, c'est pas, on parle de Bordeaux, tu vas chercher un Le Garec qui est quand même exceptionnel. Il y a des joueurs comme ça, mais il y en a partout. Partout. Ouais, j'exagère, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Tu as Jauneau, le petit Jauneau à Clermont, qui fait des matchs incroyables.
On a une génération pour être champion du monde en 2027.
Qui fait des matchs incroyables. Le Stade Toulousain aussi, quand il se supplée Antoine Dupont. Enfin, c'est, voilà, on ne va pas les citer, mais c'est impressionnant. Je trouve que c'est impressionnant. Je ne pense pas que par le passé, il y a eu autant de talents. Je ne le pense pas.
Bon, bah, c'est
plutôt, en même temps, je parle.
Il y a plutôt de quoi être optimiste pour l'avenir.
La Coupe du Monde, oui.
Ouais, parce que les Coupes d'Europe, c'est bien, mais on les gagne tout le temps. Maintenant, il faudrait gagner une Coupe du Monde, quand même. Ce serait pas mal. Cette équipe de l'UBB, on va parler tout à l'heure de Montpellier, mais évidemment, la grande Coupe d'Europe, c'est la Champions Cup. Et cette équipe de l'UBB, vraiment, a produit un récital, a filé la banane à tout le monde. Les gens avaient tous le sourire à la fin du match. Les supporters français, évidemment, les supporters ou les observateurs. Nous, on s'est tous regardés. Mais on s'est régalé. Les 40 premières minutes ont été immenses. Lorsque les solistes s'emparent du ballon, il y a le frisson qui envahit tout le stade.
Et tu as raison, parce que t'es pas obligé d'être supporter
non,
de l'UBB.
Non, tu es supporter du rugby.
Et c'est vrai qu'on a pris du plaisir à les voir jouer. C'est incroyable le bonheur qu'ils donnent. Tu le partages, en fait. Il y a une communion avec cette équipe-là. Je sais pas qu'on l'a expliqué. Alors, en Coupe d'Europe, parce qu'en championnat, ça va un peu moins bien. Mais quand ils se subliment comme ça et qu'ils arrivent à jouer ce jeu-là, tu te dis, c'est rare de voir des performances comme
Nico, tu les suis depuis des années, c'est ton équipe, évidemment. Oui. Est-ce que tu avais déjà ressenti une telle plénitude dans le jeu bordelais au cours d'une mi-temps, comme ça, 40 minutes, qui était un petit peu en dehors du temps, presque?
On a vu des grands matchs, mais cette impression de rouleau compresseur là qu'ont laissé les Bordelais sur une mi-temps, non, franchement, non. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la qualité défensive de l'UBB. Ils ont complètement annihilé toutes les volontés du Leinster, qui a un projet de jeu très structuré, mais qui était assez lisible quand même. Malgré tout, ils les ont détruits, en fait. Ils les ont détruits. Jamais les Irlandais ont pu prendre la ligne d'avantage. Moefana et Gazzotti ont fait un travail de destructeur. C'est 92% de plaquage réussi du côté de l'UBB, alors qu'ils ont plaqué 213 fois contre 140 aux Irlandais. Donc ils ont été vraiment ultra ultra solides défensivement. Et après, cette équipe là quand elle a des ballons de turnover ou qu'elle a le ballon, on sait que de toute manière elle a des joueurs qui sont puissants, qui peuvent porter la balle. Tu peux jouer sur les extérieurs, t'as en plus des joueurs quand t'es un peu dans le désordre ou qu'il y a un ballon cafouillé, qui sont capables, sur un petit rasant, sur un petit rebond, de faire un offload magique et de décaler Bielbiaré. Donc enfin, tu vois, il y a tout. Là où je les ai trouvés vraiment très, 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 très forts, c'est devant et dans cette solidité défensive. Là, franchement, ils m'ont surpris sur le début de match.
Ce qu'on appelle la rush defense, c'est ça?
Non, ils ont contourné la rush defense. Enfin, ils ont annihilé la rush defense.
Ils ont aussi fait de la rush defense en montant. Notamment, il y aura Moefana qui était très fort à chaque fois et qui faisait des plaquages offensifs dominants où derrière, il y avait des ballons de turnover à récupérer. Il les a complètement détruits. Les Irlandais, franchement, pendant 40 minutes, ils ont tapé contre un mur. Ils perdaient 5-10 mètres à chaque fois qu'ils avaient le ballon en attaque. C'était impressionnant.
Et pourtant, ils ont marqué le premier essai. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, ça va pas être facile. Et puis derrière, il y a eu cette avalanche d'essais. On a l'impression que ça les a piqués, les Bordelais, de prendre ce premier essai de la part de cette équipe du Leinster. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans le jeu bordelais, Denis? Un peu la même chose que Nico, cette défense féroce.
Oui, moi,
la patrouille de France, on sait qu'elle existe et elle nous régale à chaque fois.
Le jeu aérien.
Ouais.
J'en ai parlé un peu
avec Yannick après le match. On était ensemble à soirée de l'UBB, mais effectivement, il y a eu, ils ont travaillé ça. Ils ont mis l'accent sur ces ballons hauts. Ils savaient qu'il fallait être très fort sur ces ballons hauts pour les récupérer d'abord, mais pour empêcher les Irlandais de déployer leur jeu. Si ils y sont arrivés, et puis après, ils ont mis l'accent sur la défense, en essayant de les repousser chez eux systématiquement. Mais ça demande une force collective, hein. C'est pas qu'individuel. La vérité, c'est là où ils m'ont vraiment bluffé.
Tu veux que je te donne un peu les stats des plaqueurs bordelais. Voilà, il y a, je suis en train de compter, il y a 7 bordelais dans les 10 meilleurs plaqueurs du match. Et c'est pour vous dire le travail collectif de oui. la défense bordelaise. Moefana 16, Beauchaton 16, Lucu qui plaque encore 15 fois sur le match, Palu 15, Damien Penaud qui est pas connu pour être un défenseur extrême, 14, Jeff Poirot 13, Gazzotti 13, Mathieu Jalibert est le 11e plaqueur de la rencontre avec 12 plaquages réussis. Donc voilà, tout le monde s'y est mis et franchement Noël McNamara qui est l'entraîneur des trois quarts des Bordelais, qui a coaché de nombreuses allées au Leinster, connaissait le dispositif offensif du Leinster par cœur. Je pense qu'il a énormément œuvré pour détruire cette attaque irlandaise.
En fait, il y a une vraie volonté collective, c'est ça qui est fort. C'est rare de voir à ce point une équipe de défendre ensemble. C'est ça le plus dur en fait, la défense, parce que parfois t'as des...
Il paraît qu'il y a un gourou de la défense à
Colonie
du bébé.
Hein, alors, c'est Christophe Lotsuc qui est en charge du travail collectif en défense, de la circulation.
Il est spécialiste du jeu à 13, donc c'est ça sinon.
Non, alors, il y a un ancien entraîneur de rugby à 13, Aurélien Colioni, qui s'occupe des skills un peu individuels en défense, qui fait beaucoup de travail sur la technique de plaquage, sur notamment les attitudes dans les zones de ruck pour avoir des rucks rapides.
C'est plus individuel,
de l'UBB. Ouais, il y a plein de choses. Il y a un vrai travail collectif qui est fait autour de Christophe Lotsuc et il y a aussi un travail très individuel avec certains joueurs sur des attitudes de plaquage, sur comment essayer d'être le plus actif possible au sol. Bon, ça se passe dans beaucoup de clubs. Il n'y a pas qu'à l'UBB où on est structuré comme ça. Mais c'est vrai qu'on a cette volonté, surtout en Champions Cup à Bordeaux, d'essayer d'être très très fort sur le jeu au sol pour avoir des ballons ultra rapides, parce qu'on sait que quand les Bordelais ont des ballons rapides avec Maxime Lucu qui est capable de dynamiser dans tous les sens, de coller au ballon, derrière il y a des mecs qui vont à 12 000 à l'heure, donc ils peuvent tout faire.
Julien, tu es un expert du jeu, tu analyses toujours tout ça avec beaucoup d'intelligence. Là en plus c'est pas ton club, donc tu as pris du recul. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans le jeu de l'UBB ce samedi après-midi?
Non mais ils ont été d'un réalisme incroyable. Alors après voilà, Nico parlait des stats, mais quand tu vois les stats tu te dis ah bon, ils ont pris 30 points le Leinster, donc il y a déjà 95% de plaquage réussi pour l'UBB. Preuve de la solidité défensive de cette équipe-là. Mais il y a des chiffres, c'est que le Leinster a occupé 60% du terrain de l'UBB en première période, à 57% d'occupation, fait deux fois plus de passes que les Bordelais, mais les Bordelais ont marqué 5 essais à chaque fois qu'ils sont rentrés dans les 22 mètres. Ils sont rentrés 5 fois dans les 22 mètres du Leinster pour 5 essais. Donc en fait, ils ont fait preuve d'un réalisme incroyable. Les fameux expected points, cher à Fabien Galthié, dont tu nous avais parlé après le France-Afrique du Sud, ils ont été d'une efficacité incroyable
clinique,
pour les Bordelais.
Comme disait l'entraîneur
exactement,
irlandais.
Exactement, ils ont été cliniques. Parce que les Irlandais, à un moment, ils ont un temps fort. Et on voit, pendant 5 minutes, ils sont quasiment dans les 22 mètres des Bordelais. Ils tapent, ils n'arrivent pas à...
Ils sont stériles, impuissants.
Et surtout, on voit Yannick Bru, on voit cette image où il est debout et il exulte de joie parce qu'il se dit peut-être que le tournant de match, il est là, parce que les Bordelais, ils ont inscrit que 2 essais. Et après, il y a l'interception de Moefana. Il y a aussi les rebonds qui sont en faveur des Bordelais sur le 3e essai où il y a un jeu au pied de Gibson Park, contré par Penaud. Gibson Park qui revient, le ballon qui rebondit et ça va en faveur des Bordelais. En fait, c'est une première mi-temps parfaite où tout leur réussit. Donc ça, c'est aussi exceptionnel aussi parce que tu te dis que... Mais Yannick Bru le dit, hein, on a mis plus d'énergie que les Irlandais. Tous les seconds ballons, Nico parlait du jeu aérien, ils ont 14 ballons gagnés sur 18 en l'air. C'est-à-dire que tous les jeux aériens aussi les ont gagnés. Ouais. Ils ont gagné les deuxièmes ballons. Ils ont réussi à tout gagner dans ce match-là. Donc évidemment, c'est exceptionnel de réussite et de performance de la part des Bordelais qui ont réalisé une première mi-temps parfaite sans forcément avoir beaucoup le ballon.
Exactement, back to back en plus à la fin, hein, parce que remporter une première Champions Cup, c'est important, c'était magique l'année dernière, mais là arriver à en remporter une deuxième de suite, c'est tout à fait exceptionnel. C'est
surtout
vie.
Avec ce parcours là
oui, avec le parcours. On va écouter Yannick Bru et puis évidemment on va revenir sur ce parcours qui avait commencé par une victoire en Afrique du Sud, là où il n'est jamais facile de gagner. Mais d'abord on écoute Yannick Bru.
On passe d'un invité surprise à quelqu'un qui confirme et sa solidité. Je ne dis pas qu'on est rentré dans la cour des très grands parce qu'on est quand même très loin d'une équipe comme le Leinster et qu'on a battu aujourd'hui. Franchement, cette année, en termes de professionnalisme, ce qu'ont accompli les joueurs, c'est exceptionnel. On a tout mieux géré que l'année dernière. En tout point de vue, cette campagne européenne, elle nous rend très fiers du parcours des joueurs. franchement, il faut savoir l'apprécier. Je pense qu'on ne le refera jamais. Je pense que les joueurs le referont jamais, un parcours comme ça. Après, ils sont tellement un peu spéciaux qu'ils peuvent me faire mentir, mais je sais que ça sera quasiment impossible de remettre autant d'intensité sur la campagne de Champions Cup la saison prochaine. Et j'espère qu'ils vont profiter comme ils l'ont mérité.
Voilà, ils ont atteint leur zénith, en quelque sorte. Ils n'arriveront jamais à refaire un truc pareil, nous dit Yannick.
C'est étonnant qu'ils réagissent comme ça, parce qu'ils pourraient dire on va chercher le troisième, tu vois, comme Toulon.
Ouais, comme Toulon.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas mal interpréter ce qu'il dit. Ils ont très envie d'aller chercher le troisième. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est sortir d'une saison où tu es allé chercher un titre l'an dernier, où tu fais finale de top 14, où tu as une préparation raccourcie, où tu as autant de blessés parmi tes cadres sur la première moitié de saison.
Où tu donnes autant de joueurs en équipe de France.
Exactement. T'as des joueurs qui sont mobilisés par les sélections. Tu vas en Afrique du Sud sur le premier match. Tu vas prendre le bonus là-bas. T'es dans la même poule que Toulouse. Donc tu sais que si tu veux recevoir jusqu'en demi-finale, il faut tout gagner. Tu vas jouer ta qualif à Bristol. Tu joues Northampton en poule, qui est finaliste de la dernière Champions Cup. Et derrière, en phase finale, tu prends Toulouse en quart, le champion de France. Basse, qui est une des meilleures équipes européennes, champion d'Angleterre, en demi. Et tu finis par le Leinster en finale. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'histoire récente de la Champions Cup qui ont un parcours comme ça aussi joli. Quoi.
Tu peux juste dire qu'ils ont reçu en quart et en demi. Donc
ah oui, mais ils sont allés
là. Ils sont allés chercher, Denis.
Bien sûr. Non, mais c'est pas. Je dis ça, mais c'est le seul petit point, tu vois, qu'on pourrait dire.
Ben oui, mais aller gagner en Afrique du Sud, en revanche, c'est peut-être là qu'ils ont justement
gagné le droit de
revoir. Regarde, Denis, c'est là où Toulouse, l'année dernière, a perdu sa demi-finale parce qu'ils avaient été gagnés en Afrique du Sud. Mais que 4 points sans bonus offensif.
Oui, Bordeaux, il y a une gestion des points et des victoires qu'il faut prendre en compte dans les matchs de poule, c'est sûr.
Il ne faut pas oublier le chiffre des Bordelais. Ça fait quand même 16 victoires d'affilée en Coupe d'Europe, ce qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Et sur ces 16 victoires, messieurs, combien de bonifiés?
14.
16.
Allez, 16.
Ah oui, 16 bonifiés.
16 victoires
bonifiées. Ah oui, parce que 4 essais.
Essais. Ça veut dire qu'ils ont marqué 4 essais sur les 16 dernières rencontres de Coupe d'Europe. Donc c'est une équipe taillée pour l'Europe là aujourd'hui, de par l'arbitrage qui facilite le jeu, de par la qualité de cette équipe là, de par l'investissement qu'ils mettent en Coupe d'Europe, c'est un rouleau compresseur européen aujourd'hui. 16 victoires, bravo
à cette UBB, bravo aux joueurs de l'UBB. Là aussi c'est difficile d'en ressortir un ou deux en particulier. Lucu évidemment. Lucu avec qui tu t'es entretenu, Denis, dans la soirée. On va d'abord l'écouter, Maxime Lucu, nous parler de ce que représente pour lui cette victoire. Et ensuite, tu nous diras un peu ce que vous vous êtes dit. On écoute Maxime Lucu, le capitaine de l'UBB.
Dans une autre dimension, je pense pas. Après, on a tendance à beaucoup banaliser les efforts qu'on fait, le travail qu'on fait, et vivre ces moments-là. On a traversé tellement de moments compliqués que enchaîner un deuxième titre, en plus avec le calendrier qu'on a eu, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le club, pour le groupe. C'est un club qui est jeune, qui a été créé en 2006, qui connaît les phases finales maintenant depuis 6-7 ans. L'histoire, elle est pour nous. On parlait de Leinster, ils en ont 4. On parle de Toulouse, ils en ont 6. Nous, on a marqué en faisant le doublé. Pour nous, historiquement, pour ce groupe-là, c'est quelque chose d'immense pour nous. Et j'espère qu'on commencera un peu plus à avoir du respect par rapport à ça, parce qu'on lit beaucoup de choses aussi. Et aujourd'hui, on est très heureux de le faire. Et aujourd'hui, c'était nous qui étions sur le terrain, et ça, c'est bien.
Alors, il n'est pas revanchard, mais pas loin quand même. On lit beaucoup de choses, on s'est fait d'appel.
En même temps, c'est aussi sa grandeur. C'est-à-dire qu'il apprécie le moment en pensant qu'à ces moments de doute et de tristesse, de souffrance, parce qu'il a beaucoup souffert, il me l'a avoué, il y a 2 ans, il était au fond du seau, il n'y avait personne, il m'a même dit que les seuls c'était RMC, il m'a même aussi nous a cité, ça veut dire qu'on était là aussi à le soutenir, mais il est descendu bien bas.
Non mais là il y a eu des critiques particulière sur son jeu en équipe de France, mais j'ai pas l'impression non plus que l'UBB ait été la cible de critiques acerbes de la part des médias ou même des réseaux sociaux ces derniers temps. Tout le monde est enthousiasmé par le jeu de Bordeaux.
Je peux comprendre ce qu'il veut dire, c'est que on a émis des doutes depuis plusieurs mois sur l'UBB.
Oui, là, on avait émis des doutes après la première défaite en finale de top 14 face à Toulouse. Ouais, c'est sûr que.
Non, mais regarde, même la saison dernière, avant qu'ils aillent chercher le titre, on n'arrêtait pas de noter le niveau des avants. On se disait, est-ce que Bordeaux a les avants pour faire quelque chose? Cette saison, on n'a pas arrêté, et à juste titre, je ne dis pas qu'on a tort, il faut le faire. On n'a pas arrêté de mettre en parallèle, ils font une superbe saison en Champions Cup, mais en top 14, ils sont moyens, très moyens, et ils le disent eux-mêmes. Donc tu vois, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des petits bémols autour de... ce qu'on a moins avec le Stade Toulousain par exemple, parce que le Stade Toulousain construit quelque chose de tellement fort, on est les premiers à dire, alors que Toulouse est peut-être un petit peu dans le dur en ce moment, attention, Toulouse va arriver en phase finale, ils vont détruire tout le monde. C'est peut-être sur ce rapport là que Maxime Lucu
non,
dit
non,
que
je pense, c'est plus, voilà, c'est plus personnel hein, c'est
ah ben non mais il y a cette histoire où il a je vous conseille, et on l'a dit déjà vendredi, nous on a fait un entretien avec lui qui est toujours disponible sur toutes les plateformes, un entretien des poteaux avec Maxime Lucu où il revient sur 2024, sur les critiques qui l'ont touché, il s'en est servi, ça l'a beaucoup blessé. C'est un peu l'emblème de ce club-là, Maxime Lucu, parce que voilà, il est arrivé, c'était un mec que personne connaissait. Au moment où l'UBB commençait à tutoyer les phases finales, il a perdu énormément. Il a pris des claques sur le terrain, en dehors. Mais il a réussi à se relever. Et quand tu le vois sur la finale, il fait un match exceptionnel. Même avec son carton jaune, en fait, de 10 minutes en deuxième mi-temps, t'arrives pas à enlever le fait qu'il a fait un match exceptionnel.
Il y a aussi ce rapport et cette concurrence avec Dupont. Enfin, le parallèle, il faut le faire. C'est-à-dire qu'au moment où il vient en équipe de France, il est très critiqué parce que finalement, il est préféré à d'autres. Souvenez-vous, on parlait de Serein, il y avait d'autres demi-mêlés. Il est mis en porte-à-faux quand même par rapport à Dupont, par rapport au niveau de Dupont, on va dire.
C'est Dupont qui est mis en porte-à-faux là par rapport à
la situation de Lucu. Aujourd'hui, je veux dire à l'époque, je crois qu'il a beaucoup souffert.
À l'époque, oui, mais bien sûr.
Il a beaucoup souffert de ça, ce rapport-là.
Oui, peut-être que Jalibert aussi a beaucoup souffert, la comparaison avec Ntamack.
Oui. C'est pas pareil.
Parce qu'il a moins de. C'est un joueur plus talentueux, Mathieu.
C'est un joueur qui a toujours été sous-coté, Maxime Lucu. Il a toujours été un peu sous-coté. Quand il est arrivé dans le monde pro, moi je vous raconte tout le temps l'anecdote, mais je vais la raconter une dernière fois. Quand il arrive à Biarritz, on lui dit tu vas pas passer le cap du professionnalisme. Il s'installe, il devient capitaine de Biarritz. Il arrive en top 14 à 26 ans. On se dit c'est quoi ce joueur qui va découvrir le top 14 à 26 ans. Dans l'esprit de Christophe Furieux, c'est le numéro 3 à l'UBB dans la hiérarchie des 9. Et en 5 mois, il bascule tout. C'est le numéro 1 contesté. Pareil, il arrive en équipe de France. On se dit est-ce qu'il va avoir le niveau. Et dès que Dupont se blesse, il y a eu cette année 2024 compliquée, mais globalement, il a réussi à assurer.
D'ailleurs, Nico, moi j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Dernièrement, il a dit quand j'ai remplacé Dupont quand il s'est blessé en Irlande, j'ai compris. Je me suis dit là, il faut que tu montes ton niveau. Je vais voir si je peux challenger les meilleurs. Et il a fait un match extraordinaire. Et ça a été un déclic en fait.
La victoire à Dublin. Oui,
il est parti de là. Il a avoué ce qui est tout à son honneur. Il a dit voilà, j'ai compris. Je pouvais jouer dans la cour des grands.
Et il a été très très bon aussi dans l'après-match samedi, avec le tour d'honneur qui a duré moins d'une heure.
Extraordinaire.
Avec le maillot de l'Athletic Bilbao sur la tête.
Génial.
Il s'est arrêté, il a eu un petit mot avec quasiment tous les supporters de l'UBB. Ouais. Génial.
C'était sympa, Julien, de
voir ça aussi. C'est un bon
moment.
Pour
eux, c'était exceptionnel. Ils ont quand même vécu un week-end tous les Basques.
Ouais.
T'as eu Baptiste Erdosso hier. Le geste de l'Athletic Bilbao qui leur a offert un maillot avant match à tous les Basques. C'était important. Maxime Lucu disait il avait été de la finale entre les Saracens et le Racing. Il y était à San Mamés. Pour les Basques, c'est la cathédrale d'aller là-bas. Donc pour eux, c'était un événement. Ils étaient chez eux, ils avaient envie de gagner.
C'était pas Saracens, c'est Leinster.
Non, le Saracens, ce Racing en finale, c'était pas contre
Saracens.
C'était
le Leinster.
Non, c'était Leinster. C'était Leinster Racing,
pardon. En 2018.
Je suis pas journaliste.
Mais pour eux, c'était un événement. Je pense qu'en début de saison, quand Lucu il a vu que la finale était à Bilbao, il avait qu'une envie, c'était d'y être, pour vivre cet événement-là, et qu'évidemment, il avait envie de fêter ça avec tous les Basques qui étaient là et qui devaient le connaître. Ils avaient tous la famille, les amis. C'était un chouette moment pour eux, quoi.
Ouais. Alors, messieurs, difficile de désigner, de sortir un joueur. On vient de parler de Lucu parce qu'il a été désigné homme du match. Est-ce que vous avez, vous, en dehors de Lucu, un homme du match, quelqu'un qui vous a véritablement impressionné, Denis?
Non, un homme de l'ombre, Palu. Palu qui a fait un match incroyable. On parle pas beaucoup de lui et il s'est imposé. Il a fait 30 matchs cette année. Ces hommes de l'ombre qui font la différence, qui amènent un supplément d'âme, c'est voilà, de la sobriété, mais quelle énergie, quel abattage ce joueur, un joueur transformé qui vient du Racing, qui était pas en perdition, j'en ai un peu parlé après le match à la soirée, il me disait oui, il a plus envie, tous ses copains étaient partis les uns après les autres, il s'est retrouvé avec des jeunes, et finalement sa chance a été que Bordeaux l'appelle, de pouvoir se remettre en question comme il l'a fait, et puis de faire une saison pleine, 30 matchs, c'est exceptionnel.
Ce qui est dingue, c'est que tous les joueurs qui quittent le Racing sont contents de revenir à Bordeaux.
Oui,
ça a été le cas de Cameron aussi, Woki, qui a été « Oh là !» Oh là là, attention, attention, il y a un invité exceptionnel qui est en train d'arriver. Ouais. Boris Palu, qui était l'invité hier de Georges Quirino, de Sarah Pitkovski dans Bartoli Times, et qui a vraiment été énorme. Un peu comme un ancien Béglé. Alors, je ne sais pas s'il est Béglé-Bordelais ou Bordelot-Béglé.
L'ancien meilleur talonneur Béglé.
Ah oui, parce que maintenant, il a été largement dépassé par Maxime Lamotte.
Je vais être obligé de laisser votre titre meilleur talonneur de Bordeaux.
Là, ça y est. Tu abandonnes.
Je ne sais pas si je redonne la couronne à Maxime. Je ne sais pas encore. On va faire des assemblées générales à la maison avec ma femme. On va savoir si je donne la couronne ou pas du meilleur talonneur de Bordeaux.
Et tu sais que Denis a chauffé Maxime Lamotte samedi soir. Qui veut te prendre en tête à tête.
Non, mais il est con, quoi. Il ne sait pas, j'ai 60 ans, moi.
Non, mais ce qui est beau, c'est que Maxime, je croise Maxime et il me dit Moscat, il m'aime pas. J'ai dit, mais t'es con, quoi, bien sûr qu'il t'aime. Mais il était persuadé,
tu vois. C'est un message, il va m'en rappeler, j'espère. Ouais. Donc voilà, ils ont fait un match extraordinaire. Hein. Là, c'est rarement même une équipe à ce niveau. Hein. Ouais. Les autres, en face, quoi, ils les ont roués de coups, jetés par terre, piétinés. Je vais te dire, c'est impressionnant. C'est impressionnant le jeu qu'ils font, parce que devant, ils sont très costauds. Derrière, quoi, derrière, c'est très impressionnant, la fluidité, la vitesse. C'est
la vitesse, c'est de passe,
et
tout ça.
Et le petit Bielbarré, je sais pas, il est né, lui, quoi. Il est né dans un ballon de rugby, quoi. Chaque fois qu'il y a un coup qui gagne, il arrive comme un poulet, un coup de poulet, comme ça, il regarde comme ça, on dirait un poulet, il arrive à quelqu'un, pam, pim, je vous prends le ballon, me soit
encore. Sur les ballons, il était bon, sur les ballons.
Non, mais il est bon partout, en défense, il est bon partout.
Tu sens le frisson dès qu'il prend un ballon. On avait déjà fait la remarque avec les matchs de l'équipe de France, mais dès qu'il s'empare du ballon, t'as le stade qui retient son souffle et qui s'attend à quelque chose, et souvent, il n'est pas déçu.
Non, mais c'est le Serge Blanco, mais un peu plus blanc. Il n'est pas de Caracas, il a moins pris le soleil. Serge, on embrasse Serge, le maire de Biarritz. On t'embrasse Serge. Il faudra le choper quand même à l'émission dans le Moscato Show. Putain, il veut pas, quoi.
Ouais. Vincent, venir. Est-ce que tu te sens de la famille de cette équipe de l'UBB? Parce que j'en discutais avec des anciens Béglés qui étaient samedi soir, et ils ont un peu l'impression d'être mis de côté, parce que Laurent Marty dit toujours, voilà, on a fondé ce club, mais ce club, il a quand même les racines du côté de Musard, du côté de Bègle, non?
Tu ne vas pas empêcher Laurent de penser que c'est son bébé, quoi, tu vois, il
y a mis c'est son bébé, ça y est.
Oui, mais comme tout le monde, il veut tuer le père, quoi, tu vois, donc on ne peut pas lui reprocher, qu'est-ce que je te dis, une telle réussite. Moi, c'est vrai que j'ai pas été à ma boîte aux lettres, mais bon, je dois avoir les places d'invitation sur cette finale. Laurent Martin, c'est sûr qu'il me les a envoyés, bien entendu. Mais j'y ai pas été à la boîte aux lettres, donc je vais y aller. Peut-être que je vais les découvrir demain ou après-demain. Mardi, c'est trop tard.
T'aurais pu venir.
Mais non, il n'y a pas de souci. Après, moi, sincèrement, j'aime beaucoup Bordeaux, Bègle, bien sûr. Mais bon, je me revendique plus de Paris, du Stade français, que de Bordeaux, que de Bègle. J'adore Bordeaux et les supporters me font vivre des choses immenses, super. Et ton premier titre, ça reste à graver, mais ça fait 30 ans que je suis à Paris. Je suis monté j'ai signé à Bègle en 96, et là, je suis à Paris depuis 96. Non, en 96, j'étais à Paris. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. Et puis, on a l'impression que c'est notre rugby aussi.
Dans
l'organisation, dans tout.
Dans tout, c'est génial. Moi, j'adore ce club de Bordeaux, surtout comme il joue, c'est extraordinaire. Mais bon, je m'en fous un peu.
C'est bien différent de ton époque, c'est sûr.
Je ne suis pas demandeur. Qu'est-ce qu'il y a?
Julien, je
dis que c'était bien différent de ton époque. Il ne faut pas des cocottes sur 100 mètres. C'est sûr que cette année, il joue mieux.
C'est sûr. Qui c'est qui me parle à ces journalistes? C'est l'apprenti. Il a la carte de journaliste.
C'est un Montpellier de peau en plus.
Mais c'est le mec qu'on a à Montpellier, là. Le gilet jaune qu'on a à Montpellier, là. Avec la figurine de Loulou Nicolet sur le frigo. Et Mathé, c'est lui. Comment ça va, mes reflettes? Comment tu vas, mon poulet? Tu t'es régalé? Et Bernard, quand même. 12e finale, quand même. Quand même, c'est impressionnant, quand même.
Surtout qu'il a fait une belle soirée.
Nanar, il ne loupe jamais les finales. Je vais te dire, je ne l'ai jamais vu. Le jour où il loupera une finale, il faudra qu'il arrête. Hein. La veille de la finale, en général, Artur Milan. Hein. Si tu avais à remonter tout ce qu'il a descendu, crois-moi, tu aurais les jambes pleines de lactique.
Hein. C'est beau ce qu'ils ont fait, Montpellier.
Ah ouais, non, Montpellier, c'est extraordinaire.
C'est pas fini, en plus.
Je t'annonce sa couleur finale.
Oui, finale.
Finale.
Alors, ouais, justement, voilà. On va débattre de ça, parce que c'est vrai que ces deux clubs, l'UBB et Montpellier, ne font pas encore figure de favoris pour le titre, parce qu'il y a toujours Toulouse, toujours l'ombre du stade toulousain, même si Toulouse est peut-être un peu moins fort cette saison pour l'instant, mais les phases finales n'ont pas commencé. Messieurs, quelle est pour vous aujourd'hui l'équipe qui vous semble le plus à même d'être déjà en finale et d'être un véritable outsider pour le stade toulousain? Est-ce que Bordeaux, de par sa prestation samedi, est de nouveau le principal outsider, ou est-ce que Montpellier finalement n'est pas l'équipe qui inquiète le plus tout le monde?
Vincent, il le dit à chaque fois, une équipe qui roule sur tout le monde devant est forcément favori du top 14. Et Montpellier aujourd'hui, c'est des animaux devant.
C'est pilar de fou, quoi. Ils ont roulé sur Luster, il manquait Chalureau, il manquait Camara, il manquait, aide-moi, il a manqué deux autres.
Il manquait Lennox à Niaou, il manquait.
Pourtant, le centre.
Picardo,
enfin, il manquait 5-6 joueurs.
Il manquait 5-6 titulaires.
Écoute-moi, je vais te dire, moi je les vois en finale et après, je sais pas, parce que comme ils massacrent tout le monde, le Stade Toulousain m'a l'air, alors c'est peut-être qu'un air, hein, on verra si après la musique suit, mais pour l'instant ils ont un peu l'air fan dedans, alors on les voit pas jouer. Est-ce que la prestation de Bordeaux n'a pas été un peu aidée non plus par le niveau de cette équipe en face aussi? Tu vois, je pense pas que tu peux manœuvrer Montpellier comme tu peux manœuvrer les Irlandais, tu vois, je n'ai pas l'impression non plus quand
impossible.
Même. C'est impossible. Devant, ils cassent la gueule à tout le monde. Une équipe qui casse la gueule devant à tout le monde. Depuis la nuit des temps, hein, parce que nous, on avait quand même une équipe. On fait toujours référence un peu au passé. Le Stade Toulousain, il ne faut pas oublier que le Stade Toulousain, quand, à l'époque de Denis, roulait sur tout le monde devant. Et on parlait des trois quarts.
Et on parlait
du jeu très bon, bien entendu. Parce que quand t'avais Codor et Denis au milieu, et Bonneval et tout ça, c'était quand même, ça jouait énormément bien. Mais faut pas oublier que devant, avec les Cadieux, les Portolans, tout ça, ils roulaient sur tout le monde.
Et c'est encore le cas depuis quelques saisons.
Et toujours là. Devant, ils ont une équipe incroyable, avec Robert Marchand au talonnage, avec tout ça, ils sont extraordinaires. Et donc.
J'ai l'impression qu'ils ont perdu le goût, tu vois, j'ai l'impression que sûrement qu'ils vont nous surprendre.
Je me méfie du Stade Toulousain parce que au lendemain, c'est le cas de leur dire qu'ils sont un peu moins bien, ils vont te refaire péter 40 points la prochaine qui va se pointer le museau, l'équipe, tu vois. Donc on va voir.
En tout cas,
n'oublions pas Pau, quand même, attention.
Alors, on va parler des outsiders et des autres, mais en tout cas, on va écouter dans les propos de Johan Codulo que Montpellier a rapidement tourné la page. La Challenge Cup, c'est magnifique, c'est super, mais c'est qu'une étape dans la saison. Leur objectif, c'est évidemment le bouclier de Brice.
Bien sûr, là, c'est sûr. Surtout pas faire les cons, il faut pas faire les cons. Si tu as une chance inouïe de sortir second et d'être en finale et de pouvoir gagner, de recevoir la piole.
T'as deux matchs
surtout,
après gagner.
Surtout pas faire les cons.
Hein. Tiens, on écoute Johan Codulo.
C'est une étape et pas une finalité. Donc on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, on va fêter ça ce soir, mais on va voir ce qu'on fait demain. Savoir si les joueurs veulent continuer à fêter ce titre ou basculer sur le match de Pau. Mais en tout cas, ce qu'on fait les joueurs, c'est vraiment beau. On a des convictions. On est à 20 matchs sur 23 à gagner depuis le mois de décembre. On a maîtrisé les choses. C'est beau ce qu'ils ont fait. Ça fait un moment. On a l'envie d'être dans ces 6 premiers. On l'a validé à Castres. Et on a envie maintenant d'aller plus loin.
Alors, 6 premiers, c'est le premier objectif, il est déjà acquis, ou quasiment, je crois que mathématiquement, c'est pas encore tout à fait fait, mais
si c'est fait, Julien, c'est impossible qu'on les rattrape.
Mais l'objectif, c'est évidemment d'être dans les deux pour éviter un match de barrage, hein, on sait jamais, hein, un match de barrage, même à la
pire. Il faut qu'ils soient dans les deux, là.
Ouais. Alors, pour ça, le match capital, ce sera face à la section paloise, c'est samedi prochain à Montpellier. Bon, même si Pau a été impressionnant, je ne sais pas comment vous voyez le match, mais j'ai du mal à imaginer la section aller s'imposer à Montpellier. Hein.
Mais c'est surtout le problème, est-ce qu'ils vont faire tourner ou pas? Est-ce qu'ils vont tout donner pour aller gagner à Montpellier? Je n'y crois pas une seconde. Ah. C'est pour ça que je pense que Montpellier
s'imposera. Le pari est trop dur d'aller gagner à Montpellier. Tu peux y laisser la santé. Tu peux y laisser la santé avant les phases finales. Ce n'est pas écrit non plus que parce que tu fais un match de plus, tu ne seras pas champion de France. Tu comprends? Souvent, c'est ça depuis 2018-19, mais ce n'est pas écrit non plus. À un moment donné, il y a une équipe qui va pas qualifié de suite et peut-être Bordeaux et qui va être champion et championne, tu vois, sans être dans les deux premiers. Ça va arriver, c'est pas écrit. De faire un match de plus, bon, ben c'est un match de plus, mais parfois ça peut très bien se passer et voilà. Et donc moi je serai le Pau, l'entraîneur de Pau.
Tu mises tout sur le dernier match plus que sur celui-là pour aller chercher la qualif.
Montauban le dernier match.
Bon, après, tant pis, j'abandonne la deuxième place.
Mais bon, tu joues à la maison, tu joues à la piole le match de barrage. Important, mais bon, ça peut être contre Bordeaux.
Est-ce que tu le sais, Julien? Est-ce que tu le sais
si la section Palace va faire tourner?
Non.
Non, mais la section Palace va pas faire tourner à Montpellier.
Non, il va essayer de faire le coup, mais enfin, je sais pas.
S'ils viennent gagner à Montpellier, même si ça paraît très compliqué, les Palois sont assurés d'être deuxième de.
Oui, mais tu peux laisser, comme disait Vincent, des plumes, des blessés.
Tu joues Montauban la semaine d'après,
oui, mais
tu fais tourner contre Montauban.
Oui, mais attends, Montpellier vont faire le match, c'est comme un barrage.
Je suis
là.
D'accord avec.
Moi, je veux bien, mais.
Ils sont venus, ils n'ont pas été loin de venir gagner à Montpellier.
C'est vrai que tu me dis qu'après, ils ont
Montauban au dernier match.
Ouais, donc ils vont aller jouer à Montpellier. Non, je me trompe. Alors, ils vont aller jouer à Montpellier.
Ils se sont reposés ce week-end pendant que les Montpellierains, même s'ils n'ont pas dépensé beaucoup d'énergie sur cette finale contre l'Ulster, les Montpellierains, ils ont quand même un match quand les Palois se sont reposés. Et les Palois, ils vont souffler, entre guillemets, contre Montauban la dernière journée.
Montauban, s'ils sont qualifiés second, ils ont encore une semaine.
En plus.
Ils peuvent récupérer des blessés. Non, ils vont mettre le paquet à Montpellier. C'est trop important pour
eux. Prendre 40 et des bouffes.
C'est un affrontement.
Ça va être
le meilleur paquet d'avant contre ce qui se fait peut-être mieux derrière.
Ce qui se fait de mieux derrière, mais bon, ça sera chaud quand même.
Une opposition de style, ça c'est sûr.
Opposition de style. Bon, moi les poulets, je dégage parce que j'ai
une émission peut-être.
J'ai une émission. Merci de m'avoir invité à votre émission, Denis.
Voilà. Entre les conos, on est toujours ravis de
tous les deux. Vous êtes toujours ensemble depuis 20 ans. Vous allez avoir un petit ensemble.
Avec Denis, ouais. Bah oui, on passe nos nuits ensemble, tu sais.
On s'est régalé, on a passé un week-end à Bilbao,
amoureux, magnifique.
On va vous embrasser le soir. Bonne nuit, Christophe. Bonne nuit, Denis. Comme ça.
On prend le petit déjeuner ensemble.
On refait le match. Après, il y a Vincent qui nous appelle quand on est dans le taxi à 7h30 du matin. Mais ça, c'est complètement
improbable.
Tu rentres de boîte ou quoi?
Tu sais pourquoi j'appelle? Parce que je veux savoir, avant j'avais l'habitude de vous appeler, vous dire comment ça s'est passé hier soir pour voir si vous aviez ramené. Maintenant vous ramenez plus que là, vous êtes un crevard, vous n'avez plus rien à me raconter. Vous ramenez zéro bredouille.
Si, une demi-berle.
Ouais, à part des berles, c'est tout ce que vous ramenez. Avant, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, je me disais, bon, ils vont me raconter une histoire qui va me mettre en ébullition. Là. Le feu doux, comme la bouillabaisse. Ça bouge, on baisse. C'est ça. Allez, je vous embrasse.
Bisous, mon passant. Voilà, il nous a mis le feu entre les poteaux, évidemment. On n'a pas parlé du parcours de l'UBB, parce que là aussi, cette victoire en Champions Cup redonne un peu de cœur à l'ouvrage pour le titre de champion de France. Et on va écouter Laurent Marty, le président de l'UBB, on en a déjà parlé tout à l'heure. Laurent Marty, ce bouclier de Brennus, ça fait quand même un moment qu'il lui fait de l'œil. Et après cette victoire en Champions Cup, il aimerait bien, pourquoi pas, aller chercher le bout de bois.
Si maintenant je dis que je préfère la Champions Cup, tout le monde va rigoler, je le sais. Je crois que si on veut inscrire le club dans l'histoire du rugby, il faut au moins un Brennus au milieu. Je crois qu'on se rappelle du Grand Toulon parce qu'il a gagné 3 Champions Cup, il avait gagné un Brennus au milieu. Après, ça c'est un truc qu'il faut aussi que les joueurs étrangers comprennent, parce que c'est vraiment la Champions Cup, les joueurs étrangers, c'est incroyable.
Voilà. Alors, le problème là, dans les jours qui arrivent, c'est qu'ils vont me faire tourner à Toulon, ils vont enlever des cadres. Je sais que Mathieu Jalibert ne sera pas sur le terrain à Toulon déjà.
Même pas sur le banc.
Peut-être sur le banc.
Ah,
peut-être sur le banc. Mais en tout cas, il sera pas titulaire. Et Yannick Brume l'a confirmé. Donc, il sera obligé. Mais il est obligé. C'est pas un vœu. Oui.
Et pourquoi il est obligé, Denis? Moi, je trouve que c'est catastrophique. Je suis désolé. Je comprends pas la fête à Bordeaux hier. Je suis désolé. La saison n'est pas terminée.
La fête, justement.
Je suis désolé,
là,
Denis.
Pas la fête. Oui, non, mais d'accord.
Mais je suis désolé, Denis. Tu as une saison à terminer. Mathieu Jalibert, ils sont engagés dans un sprint final. Alors, on se moque souvent des Toulousains. Mais Toulouse, ils ont jamais fêté une victoire en Coupe d'Europe. À Toulouse, disait, on fera la fête en fin de saison.
Oui, mais pareil parce qu'ils ne sont pas dans les 6 encore. Mais
je suis d'accord. Mais encore plus, Denis. Donc moi, ça me choque. Je suis désolé. La fête hier à Bordeaux, même si je comprends que Denis l'a dit, Laurent Marty l'a dit, Yannick Brul disait, c'est tellement difficile que tu ne peux pas leur priver de la fête. Mais je suis désolé. Si Bordeaux, en fin de saison, n'est pas dans les 6, j'aurais du mal à dire que la saison de Bordeaux, elle est réussie, malgré ce titre européen. Pour moi, Jefferson Poirot l'a dit après conf, ça serait tâche qu'on ne soit pas dans les 6. Et bien, si c'est tâche de ne pas être dans les 6, tu ne fais pas la fête hier au stade Chabandelmas, tu ne défiles pas dans la rue avec un bus à Impérial et ton trophée, tu dis aux joueurs, comme a fait Joanne Codulo, Vous faites la fête entre vous samedi soir, les gars, c'est normal.
Ouais, bah, par contre, c'est pas dimanche, la même Coupe d'Europe, là,
je suis d'accord, je suis d'accord, Denis, mais tu dis à tes joueurs, dimanche, on rebranche, lundi, on est tous sur le pont, on va gagner à Toulon, on bat Clermont, et en fin de saison, on peut avoir fait un truc exceptionnel que même Toulouse a eu du mal à faire, le doublé Coupe d'Europe Brennus.
Parce
que
si
les,
toi,
je... après, si les Bordelais, ils vont jusqu'au bout, je suis désolé, les Bordelais qu'on a vus samedi après-midi, je sais pas qui va aller les taper en fin de saison s'ils jouent comme ça jusqu'à la fin de saison.
Sûr.
Sauf que là, ils ont voulu faire la fête et que moi, ça me choque. Quoi, entre guillemets, tu vois,
je suis d'accord avec toi. L'an dernier, c'était la première.
Exactement. T'es obligé de fêter l'année dernière.
Club. Je l'entends. La liesse populaire, je l'entends. Je l'ai moins compris moi aussi cette saison. Bien évidemment que les joueurs, ils ont besoin de célébrer. Bien évidemment que c'est ultra long et qu'ils auraient fait la fête entre eux. Le fait de faire cette parade-là, d'avoir toute une après-midi mobilisée.
Non, mais tu peux
alors,
faire la fête samedi soir comme ils l'ont fait et puis dimanche, tu te remets.
Non,
dans
mais
le
je pense qu'ils avaient,
ils avaient deux jours de fête. Là, ils vont mettre une semaine à récupérer quand même.
Non, mais je pense qu'ils avaient besoin et c'est aussi le souhait du club. Il y a un engouement qui est très fort à Bordeaux.
Oui,
il y a un
oui,
stade de 30 000 personnes qui est plein chaque week-end. Il y avait ce côté où on veut rendre au public. Je pense que tu l'aurais fait en fin de saison. Tu aurais eu autant de monde, tu vois, si t'organisais. Voilà, alors là, t'étais à chaud.
Non, mais
là, par contre, je suis pas d'accord avec vous, les gars. C'est que.
Tu peux le faire sans picouler, à la limite.
Oui, bah alors les joueurs, ils étaient quand même partis pour faire
la
fête. Ils auraient
fait.
Non, mais les joueurs, Denis, tu le sais, ils auraient fait la fête. Ils auraient fait la fête, quoi qu'il en soit, ils auraient fait la fête, les joueurs.
Mais moi, la fête samedi soir,
ça
me dérange pas.
Joan Codulo, il a dit.
Joan Codulo, il a dit après match, il croit que quand ils gagnent, ils font pas la bringue, même un match de top 14. Alors que moi, ils fassent la bringue samedi soir entre eux, que vous les auriez retrouvés dans un bar de Bilbao. Mais très bien que tu fêtes. Mais par contre, dimanche, tu dis au mec, on rentre. Et tu les fais pas le défilé. Tu l'as fait une fois, très bien. Concentre-toi sur le top 14. Il y a un match hyper important. Ils auraient reçu Montauban samedi prochain. Je te dis, bah allez, faites la fête. C'est pas grave. T'as un match où tu sais que ça va être très difficile à Toulon. Denis nous dit, ils vont pas mettre Mathieu Jalibert, ils vont pas mettre Maxime Lucu. Voilà. Moi, je suis désolé. Je comprends pas ce choix de fin de saison. Ils vont peut-être plus être maîtres de leur destin samedi soir en cas de contre-performance à Toulon.
Oui, mais regarde, voilà, le calcul est très simple en fait, parce qu'ils vont pas se qualifier dans les 3 et 4, donc c'est 5 et 6, ils vont se déplacer. Donc là, ils vont chercher un point de bonus à Toulon et gagner clairement, ils sont qualifiés.
Ils vont chercher un point de bonus avec qui à Toulon?
Devant, il ne va pas faire tourner. Tu es obligé de mettre une bonne équipe devant.
Moi, la tendance qu'on a, et on enregistre
c'est quoi, c'est
ce podcast
le
lundi, c'est que c'est une équipe très fortement remaniée pour l'instant qui va à Toulon. Hein. Donc, moi, j'attends de voir si tu vas prendre un point de bonus à Toulon. Bien évidemment qu'ils ont envie de le faire, mais il y a un moment où, pour l'instant, ils sont partis pour reprendre l'entraînement mercredi. Les Bordelais, d'après ce qu'on nous dit, en tout cas ceux qui étaient à Bilbao, j'ai du mal. Ça va être une semaine de préparation quand même assez spéciale. Hein. Donc là où je suis d'accord avec Jean, alors moi je pense que les Bordelais ont déjà réussi leur saison. T'as deux titres majeurs en jeu
en début d'année.
Ah oui, bah là, malgré tout, je pense quand même que le fait d'aller chercher un titre de champion d'Europe, ça fait que t'as validé ta saison.
Pour moi, elle sera réussie si t'es qualifié dans les 6. Mais si tu perds en barrage, pour moi, elle sera réussie. Si t'es pas dans les 6. Pour moi, c'est un accident.
Mais là où je rejoins Julien, c'est que le discours de Yannick Bru après le match, c'est j'espère qu'on va pouvoir montrer notre vrai visage maintenant au top 14. J'ai hâte qu'on le fasse. Ok, et ces joueurs sont capables d'être surprenants et de se mobiliser. Voilà, ils l'ont fait avant des grands matchs de Champions Cup quand ils étaient peut-être pas au meilleur de leur forme. Là, malgré tout, avec beaucoup de rotation, une semaine de préparation forcément spéciale parce que t'as fait la fête, une reprise de l'entraînement potentiel le mercredi, quelques blessés à gérer, aller prendre un point de bonus à Toulon là. Même moi qui lui suis tout le temps et j'ai de l'affect pour cette équipe, je me projette pas là-dessus pour l'instant.
Et puis moi je suis désolé mais je vois pas en quoi ils pourraient pas se dire qu'ils peuvent rattraper le Stade Français. Ils ont 5 points de retard Denis sur le Stade Français, donc si tu gagnes tes deux matchs tu passes devant le Stade Français, parce que je vois pas le Stade Français aller gagner à La Rochelle à la dernière journée où La Rochelle aura forcément quelque chose à jouer. Donc si Bordeaux gagne ses deux matchs avec 8 points, ils peuvent être quatrième et recevoir un barrage à domicile. Et je suis désolé, recevoir un barrage à domicile, ça change ta fin de saison. Tu reçois le Stade Français à domicile dans un stade Chabandelmas plein. Je suis désolé, je vois pas pourquoi on se dit qu'aujourd'hui Bordeaux, il pourrait pas recevoir le barrage à domicile, Denis.
Même financièrement.
Mais bien sûr, mais c'est pour ça que Denis, je comprends pas ce choix. Il serait condamné à être en déplacement à l'extérieur. D'ici la fin de saison, je te dirais, d'accord, il y a un point à Toulon et Nico l'a dit, tu fais le plein à domicile contre Clermont dernière journée, d'accord. Non, sauf que là, mathématiquement, tu peux aller chercher le Stade Français. Ah ouais, alors évidemment, il faut que le Stade Français perde un des deux matchs, mais le Stade Français, je ne suis pas sûr qu'ils aillent gagner à La Rochelle à la dernière journée, qui aura peut-être la qualif à jouer. Donc, je suis désolé, les Bordelais, Je comprends le principe de faire la fête, de partager avec les Bordelais. C'est un club qui est jeune, qui a envie de faire la fête. Mais Nicolas dit, tu l'as fait l'année dernière pour la première édition. Là, tu dis à tout le monde, les gars, on peut faire peut-être quelque chose de très grand et on fera une grande fête en fin de saison. Tu peux aller chercher un barrage à domicile qui te change quand même ta fin de saison. Voilà, moi, je ne comprends pas le choix des Bordelais. Mmh. Je comprends de faire la fête samedi, je ne comprends pas le choix de dimanche.
Bon, eh bien, nous verrons si les Bordelais, dans quel état ils seront dimanche sur la pelouse de
Qui plus est, face à un Toulon qui est un Toulon démobilisé.
Oui, ils ont plus grand-chose à jouer, là,
Toulon.
Qui
a plus grand-chose à jouer, peut-être espérer
un l'honneur, quand même, à Mayol, de battre Bordeaux, quand même.
Christophe, l'honneur en fin de saison, ça suffit plus contre une équipe qui a les dents longues. Regarde les Castrés, ils avaient l'honneur à défendre contre les Montpellierains. Ça suffit plus dans ce top 14 hyper difficile pour vaincre une équipe qui a envie d'aller chercher quelque chose. Alors oui, à Mayol, ça sera difficile, qui va faire ses adieux à quelques joueurs. C'est la dernière fois que Pierre Mignoni sera peut-être l'entraîneur de cette équipe-là. Oui, Toulon aura plein de choses à fêter. Mais pour moi, c'est plus suffisant contre une équipe qui a envie d'aller te rouler dessus et d'aller chercher quelque chose d'immense en fin de saison.
Pas mal de matchs intéressants, évidemment, ce week-end, avec le déplacement de La Rochelle à Montauban. Mais surtout, ce Montpellier-Pau, ce sera samedi soir à 21h15. Toulon-Bordeaux-Bègles, dimanche à 16h30. Et Clermont-Racing, dimanche à 21h05. Ça va chauffer sur les terrains du top 14 pour tenter d'aller chercher les 6 premières places, évidemment, et de se qualifier pour la suite de la compétition. Ce top 14 qui va maintenant nous animer jusqu'à la fin de la saison et qui va nous régaler.
Absolument, jusqu'au Stade de France.
Jusqu'au Stade de France. On en parlera d'ailleurs vendredi dans l'apéro des poteaux, évidemment, pour revenir sur les matchs capitaux de la journée à venir. Merci les garçons, je sais que vous avez été sérieux.
Ciao.
Et que vous serez sur les terrains en pleine forme. On met pas l'équipe B, non. Je veux dire, le week-end prochain. Hein, ils seront tous là, les tauliers.
Et on remercie Vincent Moscato, notre invité surprise.
Oui, invité surprise, il est pas mal.
Il est bon.
Il est pas mal, on pourrait le prendre comme consultant.
Hein ouais, le problème, il est cher.
Un peu d'analyse.
Oui, mais il est surtout très cher.
Devant, ça court derrière.
Si on veut l'acheter pour
entre les poteaux, on n'en a pas besoin.
Si on veut l'acheter pour entre les poteaux, il faut mettre un gros billet.
Tu crois qu'il pourrait pas venir finir sa carrière entre les poteaux?
Non, je pense pas. Là, il passe amicalement à la tête, mais c'est tout.
Ouais, il va pas nous demander du blé quand même. Il va pas te demander une partie de
un café que je vais lui faire tout de suite.
Bon, merci messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Entre les poteaux, bonne semaine. Ciao.